jusqu'à 19h. Cap Sport.
Bonsoir Cap Sport, votre nouveau rendez-vous sportif de fin de semaine ou d'avant-week-end, c'est selon. La petite balle jaune est à l'honneur ce soir. L'US Open, quatrième et dernier tournoi de Grand Chelem de l'année, commence lundi avec pas mal d'incertitudes. Le milieu du tennis connaît une véritable hécatombe ces derniers mois. Nombreux sont les athlètes qui ont déjà dû mettre prématurément un terme à leur saison en raison de blessures. Est-ce que les saisons de tennis sont devenues physiquement trop exigeantes? On va en parler avec un ancien joueur et un entraîneur. Et puis on s'envolera un moment avec David Geyser. Rencontre chargée d'adrénaline avec ce Neuchâtelois sacré la semaine dernière, champion de Suisse de voltige en parapente synchronisé. Cap Sport jusqu'à 19h, bienvenue. Et à mes côtés ce soir, Jérémy Pignard, bonsoir.
Bonsoir Yannick, bonsoir à tous.
Alors Jérémy, comme on le disait, il y en a un paquet qui vont arriver en boitant à l'US Open.
Oui, ce sera un US Open plus open que jamais. Quatre forfaits de taille confirmés. Stan Wawrinka, quatrième mondial out, touché au genou. Novak Djokovic, numéro 5 mondial forfait depuis Wimbledon. Kei Nishikori, dixième mondial blessé au poignet. Et le dernier en date, Miloš Raonic, il a annoncé son forfait hier, touché lui aussi au poignet. Et puis il y a tous ceux qui devraient être là, mais qui ont mal partout. Ceux qui ont fait l'impasse sur le tournoi de Cincinnati dernièrement. Roger Federer, qui est en délicatesse avec son dos, Andy Murray, mal à la hanche, Marin Cilic, touché aux adducteurs, Tomas Berdych a lui sauté début août le tournoi de Montréal pour une blessure aux côtes, et je vous passe les Monfils, Puy Cuevas, bref, c'est l'hécatombe. 7 joueurs du top 11 à l'ATP ont actuellement des pépins physiques, Yannick.
Et on va essayer de comprendre pourquoi avec nos invités.
Oui, et pour en parler, un ancien joueur proche de Roger Federer d'ailleurs est avec nous, Alexandre Strambini, bonsoir. Et on est aussi avec Luciano Benincasa, il est argentin, entraîneur de tennis à l'Académie Cadol de Neuchâtel. Bonsoir Luciano.
Bonsoir.
Luciano, les blessures sont nombreuses, on vient d'en faire un petit peu le listing. Déjà, c'est quand même assez rare d'en voir autant à la même période. D'où vient le problème selon vous qui êtes entraîneur? Est-ce que les calendriers aujourd'hui sont trop chargés pour les joueurs de tennis?
C'est vrai que les calendriers sont très chargés. Le tennis est devenu quand même un business depuis quelques années. Nombreuses années. Et je me souviens que depuis qu'ils ont mis quand même la tournée des tournois en Asie, le calendrier est devenu très, très serré. Et puis à partir de là, c'est vrai que les joueurs, pour qu'ils puissent être au top dans tous les rendez-vous importants, c'est quand même assez difficile. Donc les stratégies, les choix des tournois et c'est quand même quelque chose de très important aujourd'hui.
Mais Alexandre Strambini, on l'entend, alors les saisons sont devenues très exigeantes, mais est-ce que c'est aussi peut-être le tennis qui a évolué, qui a pris ces dernières années une nouvelle dimension athlétique qui change un peu la donne?
Alors effectivement, comme tous les sports, le tennis évolue avec son temps. C'est vrai que le calendrier, il est chargé. Il y a aussi les aménagements au niveau des surfaces de jeu et des... Par exemple, la tournée sur gazon, qui était en principe une période qui était assez relativement facile au niveau physique pour les joueurs. Donc, ils ont ralenti les balles. Donc, les joueurs doivent beaucoup plus s'employer là aussi pour gagner les matchs. Donc, ça amène encore une charge supplémentaire sur l'organisme. Et puis, ça peut jouer un rôle en fin de saison. Ouais.
Alexandre Strambini, on a vu aussi ces dernières années, il y a des athlètes qui ont changé. Avant Rafael Nadal, on n'avait jamais vu un joueur de tennis presque aussi musculeux. On a de plus en plus d'impact musculaire aussi dans les préparations physiques. Ça compte, ça? À un moment, la machine, elle casse, elle dit stop?
Forcément. Si, ça dépend tout après du style de jeu que vous avez. Mais vous prenez un exemple comme Nadal. Lui, il s'emploie énormément sur tous les points, il dépense beaucoup d'énergie, il a besoin d'énormément de force. Donc si, à répétition, chaque semaine, vous demandez, vous avez une grosse demande au niveau de la machine du corps, c'est clair qu'avec le temps, ça va s'user et puis ça va, à un moment donné, lâcher, quoi.
Luciano Benincasa, vous pensez qu'on tire un peu trop sur la machine actuellement? Est-ce que les joueurs tirent trop un peu sur la machine? Est-ce que les moyens de prévention, comme la récupération, la diététique, tous les exercices, est-ce que ça suffit plus tout ça?
Mais en fait, au contraire, je trouve que ça a évolué les dernières années parce que tout ce qui est prévention des blessures, diététique, il y a quelques années, ça n'existait pas. Maintenant, justement, à cause des blessures, que ce n'est pas la première fois. Là, ça tombe énormément avec énormément de joueurs, mais ce n'est pas la première fois que l'US Open et il est presque sans ses stars. C'est une période difficile parce que en fait l'année commence au fin décembre, début janvier. Et il y a, comme Alexandre dit, les changements de surface. Et les joueurs arrivent au mois d'août assez fatigués. Donc, à chaque fois, il faut dire que tout ce qui s'est passé les dernières années, on fait que dans les entraînements, on a beaucoup évolué. Maintenant, les entraînements physiques sont de plus en plus de qualité et moins en quantité. Et la variation, elle est importante. Tout ce qui est prévention de blessures, elle est toujours au sommet. Et elle est au sommet. Qu'avant, à notre époque, quand nous, on était jeunes, c'était plutôt l'endurance. Après, c'était la muscu. Et puis maintenant, on voit des joueurs très minces, très maigres, qui essayent vraiment de garder son corps et de soigner bien son corps. Et puis après aussi, il faut dire que le jeu a évolué. Il est devenu très physique, il est très rapide. Il a tellement évolué que, bien évidemment, c'est pour ça que là, le choix des calendriers est très important. Parce que sinon, si on enchaîne et on enchaîne des tournois, quelqu'un comme Nadal, à différence de Roger, il a toujours beaucoup joué, lui. Et alors que Federer, je pense que si lui... son point fort, pas maintenant, hein, toujours de tout le temps, Alexandre il peut le dire, c'était toujours qu'il a moins joué que les autres et il a toujours choisi bien les tournois et les meilleurs tournois.
Juste une précision d'ailleurs pour nos auditeurs qui suivent le tennis peut-être, mais de loin, finalement tout le monde est un petit peu à bout de force actuellement parce que le début de la saison américaine correspond à la dernière ligne droite d'une saison de tennis. C'est un petit peu le début de la fin de la saison. Après, il reste encore quelques Masters, mais voilà, ça commence à être le moment où tous les joueurs sont sur les rotules. Justement, Luciano en parlait, Alexandre Strombini, on va se pencher un peu sur les solutions. Maintenant, il y a ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On a Roger Federer, que vous connaissez bien, qui lui a pris une décision très forte cette année, c'est-à-dire de sauter non seulement des tournois comme Roland-Garros, mais même d'éviter toute la saison de terre battue, parce que c'est une surface qui est très exigeante. Est-ce que c'est une stratégie qu'on va voir petit à petit se généraliser chez les autres joueurs, parce que tenir la cadence toute une saison, faire tous les tournois, c'est quasiment impossible?
Une vie de tennisman professionnel, ça commence relativement jeune. Avec, quand on est jeune, des demandes physiques qui sont extrêmement importantes. Durant une saison de tennis, vous avez quelques semaines où vous êtes très bien, mais vous êtes très souvent dans le dur, voire dans le très dur. Et quand on est jeune, ce très dur, ça se traduit par des difficultés mentales à supporter la pression que des douleurs physiques. Et maintenant, tous les cas que vous avez cités tout à l'heure qui ont des problèmes... Si on prend la moyenne d'âge de ces joueurs, comparé à il y a peut-être 10, 15, 20 ans en arrière, ils sont vieux. Et plus l'âge avance, donc les problèmes mentaux deviennent beaucoup moins importants, mais par contre, les problèmes physiques s'accentuent. Et là, avec l'acceptation de justement de ne pas jouer une certaine période par rapport à la pression de certains sponsors, certains l'entourage, tout simplement, donc ils arrivent à faire face à se priver de jouer, en fait, pour mieux récupérer. Et je pense que là, Roger, très très intelligemment, l'année dernière, enfin cette année, et l'année dernière aussi, quand il a décidé de mettre une fin prémature à sa saison, a donné un signe très très important pour tous ces joueurs professionnels qui vieillissent gentiment, en disant, attention, parce que si vous avez toujours l'envie et le plaisir de jouer, faites très attention, parce que sinon ça peut vite s'arrêter. Quoi.
Alors justement, vous avez soulevé un problème qui est important aussi, c'est que le tennis, une saison, répond à toute une question d'organisation de la part de ceux qui organisent les tournois. Et si des stars commencent à faire l'impasse sur certains, on l'a vu à Cincinnati, il n'y avait quasiment personne. Ce tournoi où on attendait tout le monde, il n'y a quasiment eu aucune star du top 10, parce que beaucoup étaient blessés. Ça va poser un problème aussi financier pour l'attractivité, pour l'image.
Prenons l'exemple tout simplement qu'on connaît bien, des Swiss Indoors. Roger annonce qu'il ne joue pas. Donc il n'y a personne qui se pousse au portillon pour réserver les places. Il annonce qu'il joue quelques semaines plus tard, c'était il y a 2-3 ans je crois. Une demi-heure après, c'est sold out. Il n'y a plus de place. Donc c'est effectivement des cash machines, hein, ces joueurs. Dès le moment où c'est qu'ils s'annoncent présent dans un tournoi, le tournoi il est plein et puis il fait ses rentrées financières comme il espérait, quoi.
Alors, Luciano Benincasa, vous entraînez surtout des jeunes. Vous avez été à Paris, en Argentine, où vous avez connu les Del Potro, les Zeballos en junior. On apprend aujourd'hui aux jeunes à écouter et préserver son corps. Ou alors, est-ce que c'est l'envie de la compétition qui domine le tout? Est-ce qu'il y a une évolution dans l'apprentissage chez ces jeunes?
Bien sûr qu'il y a une évolution, surtout dans l'écoute de la part des joueurs et puis dans la qualité des professionnels qui sont à côté de joueurs. Maintenant, les joueurs, ils sont entourés d'une équipe qui est énorme. Il y a vraiment des années où on était plus jeunes, nous, il n'y avait pas autant de personnes autour d'un joueur. Mais il faut pas oublier que même si le circuit a vieilli, et maintenant on joue grâce justement à cet état physique qui devient un petit peu plus long et dans le temps, il faut dire que quand même la carrière d'un tennisman elle est courte. Donc la chasse aux points et la chasse au prix elle est toujours importante. Je pense que là nous on parle de Federer, mais Federer, je pense que là il joue vraiment que pour le plaisir, alors que il y a énormément de joueurs, je dirais la plupart, ils sont c'est des professionnels qui sont en train de vouloir gagner leur vie, de vouloir travailler pour leur retraite, pour leur avenir. Et donc s'ils arrêtent de jouer, ils sont inquiets parce qu'ils perdent des points, parce qu'ils perdent des places, parce qu'ils perdent d'entrée dans les grands tournois. Et après, il faut commencer à ramener dans les petits tournois. Et donc, c'est ce qui Del Potro a vécu ça 3 fois. Il a eu le courage de revenir au plus haut niveau. Mais même maintenant, on le trouve, même s'il s'est soigné, c'est pas le même Del Potro qui a gagné en 2009. Il est toujours très fort. Mais je pense qu'il a été, avec ses allers-retours, il a été quand même un peu fatigué. Et encore, en étant assez jeune pour jouer, parce qu'il a que 29 ans. Non. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut voir.
On comprend bien, Luciano, effectivement, que c'est délicat de freiner l'appétit des joueurs quand ils ont envie de tout jouer. Le temps tourne. Merci beaucoup, Luciano Benincasa et Alexandre Strambini, d'avoir été avec nous pour parler de tennis, en espérant quand même qu'on ait un bel US Open, sans doute très ouvert, avec peut-être un vainqueur un peu surprise cette année. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Merci à vous. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci à vous. Au revoir.
Jusqu'à 19h, Cap Sport.
Et à 18h45, c'est le moment d'aborder le second thème de cette émission et surtout de prendre un peu de hauteur puisqu'on va parler de parapente. Les championnats suisses de parapente se déroulaient le week-end dernier à Villeneuve, dans le canton de Vaud. Et un Neuchâtelois, David Geyser, y a brillé, s'adjugeant le titre de champion de Suisse de voltige synchro avec son binôme Jérémy Péclard. On revient sur cette performance avec le principal intéressé. Jérémy, vous l'avez appelé hier.
Bonsoir David.
Bonsoir.
David, d'abord bravo pour ce titre, merci d'être avec nous. Alors on n'a pas souvent, c'est vrai, l'occasion de parler de parapente, mais c'est aussi ça Cap Sport, c'est de pouvoir parler de disciplines parfois méconnues. Et David, c'est vrai que pour le grand public, le parapente, on voit souvent ça comme un loisir, un hobby, c'est-à-dire on se paye un baptême de l'air une fois, et puis si on aime ça, bon, bah, on va pratiquer un peu en amateur pour le plaisir. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, vous en êtes un exemple, parce que pour vous, c'est un vrai sport de compétition. Comment ça se passe? C'est quoi le genre d'épreuve?
Ouais, c'est vrai que pour la plupart des gens, le parapente, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Après, une fois qu'on y a goûté plusieurs fois, on peut vite se rendre compte que c'est quelque chose d'exceptionnel et qu'on a envie de pratiquer plus souvent. Moi, je suis un petit peu tombé là-dedans par hasard, vu que j'aimais depuis tout petit tout ce qui volait. Et puis, j'ai gentiment commencé par l'aéromodélisme, les avions télécommandés. Et puis, je suis arrivé un petit peu par hasard dans le parapente. J'ai bien croché là-dedans. Et puis, avec les années, je me suis dirigé vers l'acrobatie, donc la voltige, qui est une des disciplines qu'on peut faire en parapente. Et puis là, on a une compétition Coupe du Monde, une compétition niveau suisse, et il y a un petit circuit qui est en train de s'installer depuis une dizaine d'années, donc c'est une discipline qui est assez jeune.
Alors vous êtes surtout spécialiste de la voltige synchro, ça veut dire en gros vous faites des trucs de fou en l'air à plusieurs parapentes en même temps, c'est ça l'idée?
C'est ça, ouais, donc en synchro on est à deux pilotes. On est jugé par un jury qui nous regarde depuis en bas et qui nous met des notes en fait sur mes évolutions techniques, mais aussi sur la chorégraphie, donc la beauté, un petit peu l'enchaînement des figures. Bien entendu, la synchro, donc est-ce que les deux pilotes ont réalisé les mêmes figures exactement en même temps. Et puis aussi, une bonne partie de la note est sur l'atterrissage, donc on arrive sur un petit radeau qui est posé sur le lac, et le but, c'est d'arriver avec beaucoup d'énergie. Si on peut toucher la voile, un pied dans l'eau, et puis arriver au sec sur le radeau, ben on va marquer le maximum de points.
Et c'est franchement impressionnant, hein, vous qui nous écoutez, tapez David Geyser parapente dans Google, vous irez voir une ou deux vidéos, on vous voit faire presque de la corde à sauter en l'air avec votre parapente, des loopings en quelque sorte. Je vous le dis, notre chef des sports, en voyant la vidéo, il a presque attrapé la nausée, hein. Ça secoue quand même, David.
Ouais, mais ça se coupe plus à regarder quand on n'a pas l'habitude que quand on y est. C'est vrai que quand on pratique, on le fait de manière assez progressive. Donc on commence par des figures plus simples, et puis plus on avance, plus on va faire des figures engagées et qui nous donnent plus le tournis quand on les regarde de l'extérieur, en effet.
Alors justement, quand on regarde ces vidéos, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment dangereux comme sport, ou alors c'est quand même quelque chose de plutôt sécurisé malgré finalement l'impression que ça donne?
Alors je dirais que dans les débuts de l'acrobatie, c'était quand même, je qualifierais d'assez dangereux, en tout cas plus dangereux que maintenant. Mais vu l'évolution du matériel et tous les conseils qu'on peut avoir, maintenant on a aussi la chance d'avoir des cadres dans tous les pays. Donc en Suisse, on a un cadre national qui est la Swiss Acro League, qui est en plein développement, et cette année tout particulièrement avec un nouveau leader qui est vraiment motivé, et du coup qui organise des entraînements, des stages sécurisés, et ça nous permet de progresser vraiment en toute sécurité dans la discipline, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, où c'était plutôt chacun qui commençait dans son coin et qui faisait un petit peu ses figures sans forcément se rendre compte du danger. Donc maintenant on est vraiment bien encadré avec la Ligue Suisse, et c'est vrai qu'on est un des pays où on est le mieux loti pour ça. Donc pour apprendre le parapente acrobatique en Suisse, c'est vraiment extra, quoi.
Ça veut dire que les accidents maintenant, c'est rare?
Exact, ouais. En acrobatie, c'est des accidents très rares. On a deux parachutes de secours, on s'entraîne toujours au-dessus d'un plan d'eau pour les entraînements officiels. Donc on met vraiment toutes les chances de notre côté, on n'est pas vraiment des têtes brûlées, donc on essaye de prendre le moins de risques possible, et puis de pouvoir pratiquer au maximum, quoi.
Alors vous dites, vous n'êtes pas tête brûlée, David, franchement, faut quand même être un petit peu malade pour se lancer dans ce genre de discipline, non? Ou alors vous êtes quelqu'un de tout à fait normal, rationnel?
Je dirais que j'ai pris pas mal de temps à arriver au niveau que j'ai aujourd'hui, par rapport à d'autres qui ont peut-être plus cet état d'esprit tête brûlée, mais moi j'ai toujours été plutôt tranquille et pas pressé d'apprendre les choses, donc j'ai une progression sur 6-8 ans afin d'arriver au niveau d'aujourd'hui, alors qu'il y en a qui pourraient y arriver facilement en 2 ans, peut-être en poussant un peu plus, en prenant plus de risques. Donc, je pense que ça dépend de la mentalité de chacun, mais c'est pas forcément une discipline où il faut être complètement fou pour en faire.
Il y a quelque chose en particulier qui vous a donné le virus? Est-ce que c'est l'adrénaline? Est-ce que c'est la beauté des paysages? Parce qu'on voit aussi que vous volez forcément dans des endroits qui sont magnifiques et il y a de superbes vues.
Ouais, je crois qu'au début c'était vraiment la sensation. Moi, je me souviens à 14 ans, là, quand j'ai commencé, j'ai fait ma première pente-école. Donc c'est un petit exercice de gonflage sur une petite pente où on apprend à gonfler la voile, on fait quelques pas, et puis là, la première fois que je me suis vraiment senti porté, mais c'était à 2 mètres du sol, mais c'était exceptionnel pour moi. Justement, j'avais 14 ans, et c'est vraiment cette sensation de se sentir porté pour la première fois que je garde assez fort, ouais, comme feeling. Ce que j'aime aussi avant tout, c'est le contact avec les gens, donc c'est de pouvoir voyager, voir d'autres cultures, rencontrer du monde qui pratique aussi cette discipline. Et puis, la beauté des paysages qui est aussi exceptionnelle depuis en haut. Quand on fait un vol montagne, on dort au sommet, on décolle à 6h le matin avec le lever du soleil, ou alors un petit vol du soir tranquille avec les copains, c'est vraiment des moments exceptionnels qu'on vit.
Et on l'oublie pas, c'est des moments de partage, hein, parce que c'est une discipline aussi, le parapente synchro, comme son nom l'indique, où vous concourez avec un binôme, un coéquipier. Celui avec qui vous vous envoyez en l'air, si je peux me permettre, ces dernières années, c'est Jérémy Péclar, c'est un Vaudois. Et Noémie Renevet, lui, a passé un coup de fil pour lui poser quelques questions écoutées, parfois très décalées.
Jérémy Péclar, bonjour.
Bonjour.
David Geyser est champion suisse de parapente synchro, et faire du parapente synchro tout seul, c'est un peu difficile. Il est donc en binôme avec vous. Quand on partage un sport comme ça à deux, est-ce qu'on vit les choses un peu comme un couple finalement?
Tout à fait, c'est un peu le cas de le dire. Il faut qu'on passe beaucoup de temps ensemble et puis qu'on vole beaucoup ensemble aussi.
Du coup, je vais vous poser quelques questions et vous allez me dire si c'est plutôt lui ou plutôt vous. Si on commence par lequel de vous deux est le plus sportif?
Ouais, ce serait les deux, je dirais.
Oh, il faudra pas répondre ça à tous les coups. Hein.
Non, mais là, ouais, on est assez équivalents, je pense.
Le plus casse-cou ?
Moi.
Le plus maladroit, est-ce qu'il y en a un qui se prend les pieds dans les fils à l'arrivée ?
Non, mais celui qui perd tout le temps ses affaires, c'est moi.
Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus compétiteur ?
Alors non, on est équivalents pour ça.
Est-ce qu'il y en a un qui est mauvais perdant plus que l'autre ?
Alors des fois, on prend des fois des baffes, mais on se donne toujours des bisous après.
Peut-être la question qui fâche un peu, si vous étiez dans deux équipes différentes, qui est-ce qui gagnerait ?
Ça, c'est dur à dire, alors. ça dépend tout de l'autre binôme, je dirais.
Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus fêtard ?
Oui, moi.
Il y en a un qui est plus dragueur ?
Moi.
D'ailleurs, ça marche le parapente pour draguer ?
Oui, bon, je suis marié, mais c'est toujours sympa d'avoir des retours des filles, on va dire.
Bon, le titre de champion suisse, ça doit aider aussi.
Ouais.
Alors vous êtes vaudois, il est neuchâtelois, le vin il est meilleur où ?
Oh, alors là, la question qui tue, on va dire. Valaisan, je dirais.
Vous allez vous faire des amis comme ça.
Ouais.
Est-ce que si vous deviez changer de partenaire, vous le feriez ?
Alors si j'ai pas le choix, ben oui, mais sinon non, je changerai pas. Parce que ça va super bien avec David, on s'entend bien, ça fait quelques années qu'on fait ça déjà et... C'est vraiment un plaisir de partager ça avec lui. Pour moi, c'est encore plus de satisfaction d'être avec une personne qu'on apprécie, on va dire.
Bon, c'est beau, David, quand même. Il vous jure fidélité, vous entendez ?
Ah, j'en ai la larme à l'œil, hein. C'est magnifique. Moi aussi, je t'aime, mon Péclard.
Il a dit toute la vérité, rien que la vérité, ou alors vous avez quelques petits rectificatifs à apporter ?
Non, franchement, le couple parfait, hein, je dirais. Si c'était notre soirée de mariage avec les petits panneaux, oui, non, je pense qu'on aurait du 100%, quoi.
Alors justement, Noémie parlait de vie de couple quand elle lui a posé cette question. En l'air, comment ça se passe ? Vous vous connaissez par cœur, vous êtes en osmose, vous savez réagir l'un par rapport à l'autre. Comment ça se passe entre vous ?
Ben, c'est exactement ça. C'est quand on commence à faire de la synchro avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a de la peine à anticiper ses réactions et du coup à faire la même chose au même moment que lui. Donc ça fait quelque chose d'assez désynchronisé. Par contre, avec le temps, ben là, ça fait, je pense, ça va bien faire 5-6 ans qu'on vole ensemble, vraiment souvent, et en tout cas en compétition. Et ben ça commence à aller tout seul, et puis on arrive exactement à anticiper en fait la réaction que l'autre va avoir. Et puis c'est ça qui nous permet de faire la même figure exactement au même moment.
Et vous arrivez à éviter la compétition entre vous deux, à ne se vous demander qui est le meilleur ou...
Bah en fait, ce qui est marrant, c'est que là, au championnat suisse, il y a la compétition synchro où on vole les deux ensemble, donc dans la même équipe, si on peut dire. Et puis la compétition solo, bah, c'est clair qu'on est un petit peu en rivalité les deux. Après, il y a tellement peu d'enjeux dans le sport et voilà, c'est plus l'ego personnel qui va prendre un petit coup si on est plutôt deuxième que premier ou inversement. Mais il n'y a pas de grosse rivalité, quoi. Ça reste vraiment très amical.
Un petit mot sur la dimension de votre sport. Le parapente, ce n'est pas encore une discipline olympique. Il y a un lobbying pour tenter d'en faire un sport olympique. Ça a d'ailleurs déjà été évoqué, hein, je crois.
Oui, l'idée, c'est clair, c'est de plus percer un petit peu là-dedans. Et c'est déjà cool d'avoir un petit peu les médias, en tout cas de la région de Neuchâtel, qui s'y intéressent. J'espère que ça ira plus loin et puis que bah, les efforts aussi du nouveau coach suisse soient récompensés et puis que... Ouais, que ce sport puisse avoir un petit peu plus de visibilité.
Sachant que ce n'est pas encore un sport pro, hein, vous n'en vivez pas, vous travaillez à côté, je crois que vous êtes ingénieur.
Exact, ouais, je suis ingénieur à 80% et puis la plupart de mon temps libre, bah, je l'utilise quand même pour voler. Ouais.
Pour finir, en quelques mots, David, l'avenir, les objectifs, les prochaines échéances avec Jérémy Péclard, c'est quoi, c'est où ?
Alors, je dirais qu'aux compétitions, après 6 ans où on fait le circuit de Coupe du Monde, on a un petit peu fait le tour et puis on a un petit peu aussi moins de plaisir à les faire parce qu'il y a beaucoup de pression, il y a souvent beaucoup de déplacements pour finalement très peu de temps de vol. Et puis aujourd'hui, on a une petite notoriété dans le milieu qui nous permet de pouvoir faire des démonstrations et d'être invité à certains endroits pour des vols démo qui sont pour nous beaucoup plus intéressants. Donc l'objectif, je dirais, ces 3 prochaines années pour nous, c'est de plus s'intégrer dans des manifestations, dans des festivals localement en Suisse même, et puis pouvoir présenter le sport dans des grands événements et puis donner une bonne image de ce sport au grand public.
En tout cas, merci beaucoup David Geyser d'avoir été notre invité dans Cap Sport. On vous souhaite bon vol et puis continuez quand même de nous en mettre plein la vue, hein, que ça soit en compétition ou dans différents shows, parce que ça aussi c'est quand même important pour le public.
On va tout donner, merci à vous.
David Geyser avec Jérémy Pignard, c'est la fin de ce Cap Sport. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On met tout ça sur notre site et vous pourrez réécouter l'intégralité de l'émission donc sur la page de Cap Sport sur notre site internet.